RCF.
Père Christophe Dansett, on évoque avec vous toute cette semaine ce qu'est la résurrection et ce que l'on peut en comprendre. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, bonjour.
Bonjour Madeleine.
Et avec vous, on s'est arrêté sur ce que n'était pas la résurrection. Alors, si la résurrection n'est pas la réincarnation, si la résurrection n'est pas la résilience, si la résurrection n'est pas la revivification, alors qu'est-ce que la résurrection du Christ ?
N'oublions pas que le terme « résurrection » est un terme technique qu'on a inventé. Dans les évangiles, le terme va être « anastasis », c'est le réveil, il se relève. Quand on parle de résurrection, on dit une chose simple, on dit « il vit ». Celui que vous avez mis à mort, celui qu'on a vu mourir sur la croix, est vivant. Et il s'est bien passé une transformation, à savoir que celui-là qui est vivant ne vit plus tout à fait dans la même condition qu'auparavant. Auparavant, il vit au milieu de ses disciples, dans un lieu précis, dans un temps précis. Désormais, il vit, on le croit, à travers le monde entier, présent à tous les temps. Donc, il semble effectivement libéré de la contrainte du temps et de l'espace. Mais c'est bien le même qui vit. Et il y a là quelque chose, si vous voulez, pour essayer de nous d'imaginer le Christ ressuscité, on doit se méfier. Il y a comme une espèce de rupture entre les images qu'on a, nous, du Christ terrestre, et puis le Christ ressuscité avec les grandes images, par exemple byzantines, d'un Christ pantocrator, un Christ qui domine l'univers, mais qui pourrait être extrêmement lointain de celui qu'il a été pendant au jour de sa vie terrestre. Or, le mystère de la résurrection, c'est justement de vous dire que c'est le même. Bien sûr que le Christ est celui qui siège à la droite du Père. Bien sûr qu'il est le juge qui nous jugera au dernier jour. Mais la nouvelle assez extraordinaire, c'est que vous connaissez d'ores et déjà le juge. Il est celui dont vous parlent les évangiles. Et de quelle manière va-t-il juger ? Eh bien, regardons la manière dont il juge dans les évangiles. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le Jésus terrestre et le Jésus ressuscité. Par contre, encore une fois, le Jésus terrestre et son cercle d'action se limitaient aux quelques personnes qu'il rencontrait. Le Christ ressuscité a cette capacité extraordinaire d'être présent à tout homme et à toute femme, à toute époque du monde.
Mais qu'est-ce qu'il reste de la divinité du Christ dans ce que vous nous dites ? Parce que si c'est le même que celui qui était sur Terre, qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Qu'est-ce qui a changé entre le Christ au milieu de ses disciples et le Christ avec nous, évidemment, on ne le voit pas, on comprend bien, mais est-ce que la part de divinité du Christ a changé ?
Pour répondre correctement à votre question, Madeleine, il faudrait qu'on ait déterminé d'avance ce qu'est la divinité et ce qu'est l'humanité. Comme si nous le savions déjà. Et de fait, on a souvent réfléchi comme ça, à savoir que l'humanité, ce serait tout ce qui est fragile, tout ce qui serait temporaire, et puis la divinité, ce serait tout ce qui serait éternel, tout ce qui serait tout puissant. Au fond, on définit la divinité comme le dépassement des limites de l'humanité. Je crois qu'il faut rentrer dans une autre démarche. On va accepter d'apprendre de Jésus ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. En Jésus, on découvre la divinité véritable et on découvre l'humanité véritable. Vous savez que j'ai travaillé un petit peu avec un auteur qui s'appelle Karl Barth.
Et alors, il faut redire, c'est un théologien protestant du XXe siècle.
Voilà, grand théologien protestant. Hein. Il y a une blague archi connue qui veuille qu'un pape à qui on demandait quel était le plus grand des théologiens du XXe siècle aurait répondu Karl Barth, et que Barth aurait répondu alors qu'il était prêt désormais à croire à l'infaillibilité pontificale. On ne sait pas si la blague est réelle ou apocryphe, mais enfin, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Et c'est Barthes qui pointe ça très fort en disant ben voilà, acceptons d'apprendre de Jésus ce qu'est l'humanité et ce qu'est la divinité. Or, par exemple, qu'est-ce qu'on découvre en Jésus de la divinité ? C'est que cette divinité, malgré toutes les images qu'on se fait nous de la toute-puissance, elle peut s'abaisser. Dieu peut créer l'homme, Dieu peut se faire homme, Dieu peut vouloir associer l'homme à son œuvre sans cesser d'être Dieu. Au fond, la divinité telle qu'elle se révèle en Jésus-Christ, c'est une divinité qui se caractérise par son choix absolue, déterminée d'être pour l'homme. Dieu a choisi d'être pour l'autre. Dieu a choisi d'être pour l'homme. Il est cette liberté qui s'engage. Alors, de quelle manière le Christ est-il Dieu ? Eh bien, il est Dieu dans la mesure où, par toute son existence, il traduit cette décision fondamentale d'être pour l'homme, d'être pour l'autre.
Est-ce qu'on a bien réalisé que Dieu était venu sur Terre ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça, Dieu est venu sur Terre, Dieu a habité parmi nous, hein, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.
Mais vous comprenez bien que c'est pas naturel de se dire que Dieu, la toute-puissance, est venu parmi nous, les hommes. Il est venu parmi nous, il a rencontré des hommes, Dieu a rencontré des hommes. Vous conviendrez que c'est pas si évident ?
Non, c'est pas évident. Et d'ailleurs, je crois que toute notre tradition théologique manifeste cette lutte pour accepter cette idée. Parce que, justement, ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Comment est-ce que celui qui serait le créateur de toute chose, comment celui qui serait la source, enfin, à la fois l'alpha et l'oméga, pourrait être un homme venant dans un temps déterminé, dans une époque déterminée ? C'est la grande question au XVIIIe siècle qu'on appelle la question de Lessing. Lessing, qui était un philosophe allemand, qui se demande mais comment un événement qui a eu lieu à un moment précis de l'histoire pourrait avoir un impact pour moi aujourd'hui, maintenant. Le point, encore une fois, c'est que si vous avez défini Dieu simplement par son éternité, ça devient tout à fait incompréhensible. Mais si Dieu, qu'on ne peut pas enfermer dans un concept qu'on aurait déterminé d'avance, si Dieu est celui qui se caractérise par sa capacité à être pour l'autre, alors, oui, c'est possible. Et comment est-ce que le Christ est divin ? Il est divin par son existence. Et par l'existence précise qu'il a vécue. Si vous voulez, vous avez un peu deux manières de concevoir les choses. Première manière de concevoir les choses, le Christ est homme et Dieu parce que c'était à l'incarnation, tout était fait. Dès la première seconde de sa conception, il est homme, il est Dieu. Donc tout ce qu'il va faire va être divin et humain parce que c'est lui qui le fait. Deuxième conception, dire... Le Christ est homme et Dieu parce qu'il a mené cette vie-là. Et parce qu'il a prononcé ces paroles, c'est parce qu'il a eu cette manière de vivre qu'on peut dire « oui, il est Dieu ». Il a mené une vie qui a été radicalement tournée vers l'autre et vers le Père. Et c'est en ça qu'il est pleinement divin. C'est par sa manière de vivre. Bien sûr qu'il l'est dès l'origine, bien sûr qu'il l'est dès l'incarnation. Mais c'est bien cette existence-là qui fait qu'il a été pleinement divin et pleinement homme.
Ça veut dire que la résurrection du Christ atteste de la divinité de Jésus.
On ne peut pas réduire la résurrection à une preuve a posteriori.
D'ailleurs, c'est pourtant l'impression que donnent les récits.
Là où vous avez raison, c'est que beaucoup de chrétiens lisent les récits de résurrection comme une preuve a posteriori que c'était bien Dieu. Je crois que les évangélistes ont une autre manière de voir. Typiquement, les évangélistes, quand ils racontent la vie terrestre de Jésus, vont beaucoup la mettre en relation avec des figures de l'Ancien Testament, en particulier les figures du serviteur souffrant. Vous savez, ces récits du livre d'Isaïe qui nous parlent d'un serviteur de Dieu, blessé, défiguré, mais qui est véritablement celui par lequel Dieu sauve. Eh bien, manifestement, on a reconnu, dans l'agir même du Christ, dans sa mort sur la croix, on a reconnu ces figures du serviteur souffrant. Et donc, la résurrection n'est pas la seule preuve. C'est la manière de vivre du Christ qui est la preuve ultime de sa divinité. Parce que la divinité, c'est pas simplement une espèce de supériorité absolue. La divinité pour un juif, c'est une capacité à s'engager pour l'homme et pour le peuple juif. C'est une capacité à sauver, à donner la vie. Or, le Christ, par toute son existence, il s'engage pour l'homme. Et il est celui qui donne la vie. Il est celui qui accomplit les miracles. Les miracles ne sont pas la preuve que Jésus est Dieu. Les miracles sont la divinité à l'œuvre. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors expliquez-nous.
Le propre de la divinité, c'est de donner la vie. Et Jésus donne la vie parce qu'il est Dieu.
Alors vous voulez dire que par exemple, nous aujourd'hui, quand on expérimente cette force de vie qui va contre la mort, quand on expérimente que dans une détresse, il y a une puissance de vie malgré tout en nous, est-ce que c'est ça la divinité ? Est-ce que c'est ça cette forme de résurrection aujourd'hui ?
Bien sûr, c'est ça. Dans nos vies à beaucoup de niveaux. quand vous faites l'expérience qu'il y a une véritable présence dans votre existence, quand vous faites l'expérience que vous êtes aidé, quand vous voyez un futur s'ouvrir là où, à vue humaine, vous n'en voyez pas, bien sûr que c'est le Christ présent dans son humanité et sa divinité. N'essayons pas de distinguer les deux. Le Christ présent est présent avec les deux. Mais tout ça n'est qu'un signe, hein, parce qu'on attend une autre présence encore, celle qui nous accueillera au jour de notre mort.
Alors ce sera le jugement dernier, on l'évoquera dans notre dernière émission. Est-ce qu'il faut aussi prendre en compte la question du temps sur cette question de la résurrection? C'est-à-dire qu'il y a bien ces 3 jours. Est-ce que ça veut dire aussi que pour nous, parfois, notre propre résurrection face à des chemins qu'on pourrait dire de mort, des chemins tristes, des chemins douloureux, est-ce qu'il faut arriver aussi à comprendre que ce temps est nécessaire?
Oui, effectivement, il a fallu 3 jours. Et nous aussi, il nous faut accepter que le temps de la résurrection n'est pas forcément celui qu'on voudrait. Et quand on est confronté aux épreuves, nous croyons véritablement que le Seigneur nous assiste, il est avec nous, il ne va pas nous laisser tomber. Et pourtant, il peut se passer parfois un délai considérable avant qu'on prenne conscience ou qu'on perçoive cette aide. Mais j'apporterai quand même un bémol, c'est que pour la tradition, les 3 jours du Christ au tombeau sont tout sauf un temps d'inaction. C'est le temps où le Christ descend aux enfers et va libérer tous ceux qui sont morts avant sa propre résurrection. Il y a quelque chose où il y a une espèce d'œuvre secrète, si vous voulez. Le ressuscité est en train de sauver le monde, et c'est pas simplement les quelques disciples à qui il va apparaître, il est en train d'aller chercher tous les morts. Donc les 3 jours pour nous ne sont pas une espèce de temps d'absence, comme si le Seigneur s'était offert des vacances entre la croix et la résurrection. Elles sont le signe effectivement d'un mystère caché, elles sont le signe d'une invisibilité, mais d'un Christ qui est à l'œuvre et qui est à l'œuvre pour sauver le monde entier.
Merci Père Christophe Dansette, vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vicaire épiscopal, merci à vous.